Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Dieu et la simplicité. Alors, la composition. Et c'est ici qu'on voit la fameuse composition entre essence et essai. Existence. Dans l'homme. La fêlure qui regardait. N'est-ce pas? La fêlure qui existe en nous. Il y a une fêlure. Pas seulement psychologique, mais une fêlure fondamentale au niveau de l'être, qui fait qu'en nous, il n'y a pas la simplicité dans l'ordre de l'être. C'est assez terrible de découvrir ça. C'est ce qui donne le vertige du néant. Alors, vous comprenez bien, c'est pas au niveau métaphysique. C'est au niveau de la sagesse. Et je crois que c'est très important de comprendre là comment l'ontologisme qui a confondu le regard de sagesse et le regard de l'analyse métaphysique arrive à l'angoisse métaphysique. En réalité, l'angoisse métaphysique, c'est dans la lumière du jugement de sagesse. Alors là, je suis d'accord. Il y a le vertige du néant. Vous pourriez très bien ne pas exister. C'est très ennuyeux, mais c'est comme ça. Si bon que vous soyez, vous pourriez très bien ne pas exister. Et alors, quand on découvre ça pour soi, dans la lumière de la simplicité de Dieu, qu'on pourrait très bien ne pas exister, qu'il y a en nous une fêlure fondamentale au niveau de notre essence par rapport à notre existence, notre essence est une possibilité. Vous voyez la limite. Notre essence est une possibilité. Une possibilité d'exister et de ne pas exister. Et alors le non-exister passe devant. Alors qu'en réalité, c'est l'exister. Et quand il passe devant, alors c'est le vertige. Vous avez le vertige en face du vide. Et le vide métaphysique, c'est le non-être. Et le non-être, vous l'atteignez à travers votre essence. C'est extraordinaire d'atteindre notre non-être à travers notre essence. Notre essence n'est pas du non-être. Hein. Mais je peux atteindre le non-être à travers mon essence. Et à travers mon essence qui est une limite, je peux atteindre le non-être. À travers la limite, je peux atteindre le non-être. Je dois distinguer les deux. La limite n'est pas du non-être. Mais la limite me met précipice en face du non-être. Et je peux alors être à ce moment-là impressionné par ce vertige du non-être. Là, il y a un tout petit peu d'imagination. Vous voyez bien. Et où passe l'imagination? Mais c'est une imagination extraordinairement poétique au niveau métaphysique. C'est de comprendre que l'essence implique une limite. Et que la limite me met en face d'une amessée. Alors, quand je suis très lucide, je vois l'essence c'est quelque chose de positif, le sens. Mais ça implique une limite. Vous avez donc un positif, une limite. Une limite, c'est pas du pur négatif. Une limite, c'est relatif au positif. Mais je peux regarder la limite pour elle-même, je peux le laisser. Oui, comment le télescopage se fait ? Télescopage imaginatif. Alors, le non-être apparaît en premier lieu, à travers les sens. À travers les sens, je peux saisir le non-être. Et j'ai le vertige du non-être, si je le regarde pour lui-même. Mais je dois regarder les sens toujours dans la lumière de Dieu, dans la lumière de l'être absolument saint. Et alors à ce moment-là, je comprends que mon essence est ordonnée à l'essai. Et si mon essence est ordonnée à l'essai, il n'y a plus de vertige. Mais c'est pour essayer d'expliquer comment l'ontologisme, alors je rappelle, hein, l'ontologisme, c'est le télescopage de la voie d'invention avec la voie de sagesse. Il faut arriver petit à petit à saisir ce que ça veut dire. Hein. La voie d'invention, c'est la voie de l'analyse métaphysique. La vision de sagesse, c'est ce que nous voyons. Enfin, nous distinguons bien les deux, puisque entre les deux, il y a justement le problème de la découverte de l'être de Dieu et de la découverte de Dieu créateur. Je ne saisis pas immédiatement Dieu créateur. Je découvre Dieu comme l'être premier, et je découvre cet être premier et le créateur. Et une fois que j'ai découvert cet être premier et le créateur, je peux avoir ce jugement de sagesse. Qui arrive donc en dernier lieu au point de vue philosophique. Ce qui arrive en dernier lieu au point de vue philosophique, l'ontologie devient en premier. L'oméga rejoint l'alpha. Alors qu'au niveau humain, l'oméga n'est jamais l'alpha. On ne peut pas. Il y a tout un devenir, toute une recherche. Alors si je fais confusion dans l'ontologie, je vois très bien comment j'aboutis à une angoisse métaphysique. Le non-être apparaît comme premier. D'où la fameuse question, la première question au point de vue philosophique, consiste à dire pourquoi exister plutôt que ne pas exister. Pourquoi exister pour ne pas exister? Mais ça, c'est une question de sagesse. C'est pas une question immédiate. Jamais on se pose cette question immédiatement. Vous êtes complètement fou de vous demander pourquoi vous existez pas. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Le matin, en vous levant, pourquoi je n'existe pas? À ce moment-là, touchez le sol. Hein. Tout de suite. Hein. Pourquoi exister plutôt que ne pas exister? C'est une question qui se pose directement ici, dans un jugement de sagesse. Ah oui. Dans un jugement de sagesse, c'est très important, parce que l'essence est ordonnée à l'essai, et elle est ordonnée au non-essai. Mais elle n'est pas ordonnée de la même manière. L'essence est ordonnée positivement vers l'essai, et l'essence est ordonnée négativement vers le non-essai. C'est le positif et le négatif, entre les deux. Et l'essence porte les deux. L'essence implique ordre vers l'essai, implique ordre vers le non-essai. Parce que l'essence peut très bien ne pas exister. Si l'essence existait nécessairement, il n'y aurait pas la fêlure métaphysique. Il y a une fêlure, hein. Et la fêlure métaphysique fait qu'il y a une distance, il y a une diaphora, il y a une distance entre l'essence et l'existence. Et cette distance entre l'essence et l'existé fait que l'essence peut très bien ne pas exister. C'est pas contradictoire de dire qu'une essence peut ne pas exister. C'est pas contradictoire. Parce que entre l'essence et l'existé, il y a un abîme. Il n'y a pas une simple distinction de raison, comme voudrait Suarez. Hein. Suarez voudrait qu'il n'y ait qu'une distinction de raison. Qu'il n'y a pas une distinction réelle. S'il n'y a pas de distinction de réel, alors l'essence n'est plus ordonnée au non-essai. Et à ce moment-là, vous mettez un ordre non seulement positif entre l'essence et l'existé, mais vous supprimez l'ordre négatif vers le non-essai. Donc, c'est une question très importante. Il faut y revenir constamment à ce jugement d'existence, le premier jugement d'existence. découvrir la fêlure métaphysique qui est en nous. Alors, à ce point de vue-là, vous voyez, c'est très intéressant, parce que ça fait comprendre que l'angoisse n'est pas fondée sur la mort, mais elle est fondée métaphysiquement sur la distance qui existe entre naissance et décès. Et là, je donne une leçon aux psychanalystes. Quand ils disent que, de fait, les angoisses se fondent sur la mort, je dis non, elles se fondent sur ça. C'est beaucoup plus profond. Ça va beaucoup plus loin. La créature spirituelle a nécessairement des possibilités d'angoisse parce qu'elle est une créature spirituelle. Qui dit créature dit qu'elle n'a pas l'essai. Qui dit spirituelle dit qu'elle doit avoir un droit sur l'essai. Parce que l'âme spirituelle est immortelle. Donc elle est contemporaine avec l'essai. Et elle doit durer toujours. Donc en elle, il n'y a pas de fêlure. La fêlure est au niveau de l'être, et pas au niveau de l'âme. Mon âme spirituelle n'est pas fêlée, heureusement. La fêlure est au niveau de l'être. Alors au niveau de l'être, c'est très vrai qu'elle fait. Donc c'est très important de bien comprendre ça. Ça explique toutes les angoisses. Possible, parce qu'il y a une distance entre l'essence et l'existence. Et alors, vous voyez, là, on voit comment la connaissance aide à dépasser les angoisses. Ce n'est pas tout. Mais être lucide sur ce qu'est le fondement de l'angoisse en nous, nous aide. Ça nous aide, parce que ça purifie. Venez, l'imaginaire entretient l'angoisse. Et la lucidité de l'intelligence me permet d'en sortir. En acceptant ma limite. Deux créatures. Et de voir que le bonheur n'est pas dans la créature. Et que le bonheur n'est que dans la source de la créature, Dieu. Nous avons tous une nostalgie de simplicité, ça c'est sûr. Vous voyez, Matisse, là, à la fin de sa vie, en tant qu'artiste, l'a montré d'une façon étonnante. Son Saint-Dominique de Vence, c'est montré la simplicité. Il avait cette nostalgie, mais tous les artistes ont cette nostalgie de la simplicité. Quand ils atteignent au terme de leur vie, il n'y a plus que la ligne. Alors si on commençait par la simplicité, on n'irait pas loin, vous savez, comme artiste. Il faut accepter qu'au point de départ, on soit gâteaux, n'est-ce pas, et qu'on fasse des trucs un peu lourds. C'est sûr, ça pourrait simplifier, ça mettra du temps à se simplifier. Alors l'artiste tend vers cette simplicité, il tend vers la limpidité de Dieu. Mais il faut accepter que la fêlure existe tout le temps. Et la fêlure, au point de vue artistique, vous voyez, au point de vue pictural, c'est la fêlure entre la couleur et la lumière. Vous ne pouvez pas exprimer la lumière sans la couleur. Alors il faudrait regarder au point de vue musical. Oui. Quelle est la fêlure qui existe? Lumière et couleur, c'est au point de vue pictural, on comprend très très bien. La couleur sans la lumière, c'est lourd, lourd et lourd. Hein. La lumière sans la couleur, c'est une asymptote. J'y tends, je n'y arriverai jamais. C'est la simplicité de Dieu. Dieu est lumière. Et nous, nous sommes Adam. Terre rouge. On ne dit pas terre lumineuse, terre rouge. Alors c'est effrayant. Tandis Dieu est lumière. C'est la simplicité. Au niveau spirituel, la simplicité, c'est la lumière. Là, c'est sûr. Et nous, Adam. Donc là, vous trouvez le symbolisme qui est dans l'écriture et qui est merveilleux, qui nous fait tout de suite comprendre l'abîme qui existe entre la lumière et la terre rouge. Deuxièmement, perfection. Dieu est très parfait. L'homme, comme créature, n'est pas parfait dans sa simplicité. pour être très parfait, c'est-à-dire atteindre le sommet de la perfection, il faut être saint. Et ça, c'est vrai. Le sommet de la perfection, c'est la simplicité. Tandis qu'au contraire, quand on est parfait, pour être parfait, il faut accumuler. C'est la simplicité du novice. La simplicité du novice, la perfection du novice, c'est d'accumuler. La perfection de tous les savants, c'est l'information. Quand vous devez faire une petite dissertation, vous commencez pour vous informer. Vous allez vite, vite à la bibliothèque, regardez ce qui a été écrit dessus. L'information. Alors vous accumulez, vous avez 15 livres. Et puis vous les avez lus, et au terme d'avoir lu 15 livres, plus aucune intuition. Ça a tout éteint. Et ça arrive, ça. Il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de simplicité. Il n'y a plus que l'accumulation. C'est le grand danger d'aujourd'hui. Vous avez des gens qui savent des tas de choses, des fichiers vivants. Ah, ils savent tout, fichiers vivants. Et de temps en temps, ils vomissent leurs fichiers, ça fait un bouquin. N'est-ce pas ? C'est assez particulier. Il faut vomir au bon moment, n'est-ce pas ? Alors à ce moment-là, ça fait un bouquin. Mais il n'y a pas de lumière. Pas un pouce, ça n'avance rien. Ça augmente l'accumulation de l'accumulation. Parce que c'est vrai, une fois qu'ils ont écrit un article, une fois qu'ils ont écrit un bouquin, ça fait un bouquin de plus qu'il faudra. Et donc il faudra en plus regarder, parce qu'il aura peut-être ajouté quelques petites choses, nécessairement, quelques petites découvertes à côté, dans l'ordre de l'extension, pas de l'ordre de la lumière. Eh bien, ce qui est tout à fait particulier pour lui, c'est que simplicité et perfection se tiennent. Dieu est parfait dans sa simplicité. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de l'homme, l'homme est parfait dans la multiplicité. Et donc, la perfection implique toujours une certaine opacité. Un être parfait est toujours un peu opaque. C'est en ce sens-là qu'il y aura toujours en nous une option entre la simplicité lumineuse et la perfection. Je vous ai dit toujours, la spiritualité du boulot et la spiritualité du cèdre. La spiritualité du boulot, c'est merveilleux. Un petit panache au bout. Alors quand il y a du soleil là-dedans, c'est merveilleux. Et puis le cèdre, non, il faut tout accumuler. Il faut tout prendre. Il y a une antinomie entre perfection et simplicité, pour nous. Il y a une antinomie constante. Et c'est ça qui fait qu'on va faire des équilibres entre les deux. Entre simplicité et perfection. Il faut la multiplicité pour arriver à une certaine perfection. Or, la multiplicité, elle est toujours une opacité. C'est lourd, la multiplicité. Pourquoi ? Parce que la multiplicité implique la potentialité. Il y a toujours une potentialité. On accumule. Pour pouvoir accumuler, il faut nécessairement un sujet qui reçoit. Et le sujet est indispensable. Donc, il y a une opacité parce qu'il y a une potentialité. Et ça explique alors comment les êtres purement parfaits sont si ennuyeux. Et c'est vrai, c'est extraordinaire ça. Parce que l'équilibre est du côté de la multiplicité. Dieu, dans sa perfection souveraine, n'est pas ennuyeux. Parce que sa perfection, elle est dans sa simplicité. C'est merveilleux de contempler ça. Parce qu'on voit très bien ce que c'est que la perfection pour nous. Vous voyez ? Les vertus, c'est de l'ordre de la perfection. Alors quelquefois, on trouve que les vertus, c'est très ennuyeux. Parce que c'est de l'ordre de la perfection, c'est de l'ordre de l'accumulation. Et celui qui cherche à être vertueux pour être vertueux, mais il est très ennuyeux. Celui qui a dépassé la vertu, alors qu'il retombe dans une simplicité d'amour, ah, c'est autre chose. C'est très différent. Mais il n'est pas uniquement dans la multiplicité de la vertu qui s'ajoute à la vertu. Parce que la vertu, c'est la perfection. Il faut saisir ces choses-là, parce que ça, c'est important pour nous. Au point de vue intellectuel, vous voyez, l'accumulation de l'information. Une thèse n'est parfaite, comme disait un professeur à Fribourg. Une thèse, c'est l'accumulation de 100 travaux précédents. Si vous arrivez à rassembler 100 travaux précédents et à en faire un bouquin nouveau, vous faites une thèse la plus parfaite qui soit. Si vous n'accumulez que 50, c'est moins bon, ça coûte la moitié moins cher. Et puis si vous en accumulez 10, c'est un peu court. N'est-ce pas ? On dira c'est un peu court, c'est un peu léger. L'accumulation, l'information ne compte que ça. Mais on juge en fonction de l'accumulation. Dans la mesure où vous êtes arrivé à cumuler ce nombre. Et c'est comme ça, et c'est très vrai, c'est pas du tout. Ça, c'est du côté de l'intelligence. Une intelligence parfaite, c'est une intelligence qui est très informée. Une personne est parfaite si elle a toutes les vertus. On peut rien lui retirer. Elle a toutes les vertus. Toutes les vertus. C'est la loi ambulante. Alors ça, c'est parfait. C'est merveilleux. Mais c'est une accumulation, information, accumulation, opacité. C'est opaque, c'est indigeste, ce que vous direz. Ah, c'est peut-être parfait, mais c'est complètement indigeste. C'est bastoc. C'est quelque chose de... N'arrivez pas du tout à digérer ça, parce qu'il n'y a pas un pouce d'intuition, plus rien de simplicité. Mais la simplicité donne cette lumière. Là, c'est la couleur. Ajoutez. Bon. Nous arrivons maintenant à la vérité. Vous voyez, je prends les attributs de Dieu. C'est pour ça que c'est si important. Je suis commandé par le mystère de Dieu dans l'ordre de la du jugement de sagesse. L'ordre du jugement de sagesse, il est commandé par Dieu. Et c'est là où je réponds à l'ontologisme. Il y a quelque chose de juste dans l'ontologisme. C'est la vision de l'homme à partir de Dieu. Oui, c'est très juste. Et dans un jugement de sagesse. Dans un jugement de sagesse, c'est vrai. Je considère l'homme comme une créature, donc toute relative à Dieu. Et cette créature connaît une fêlure fondamentale, elle connaît une perfection multiple dans l'opacité, elle connaît une certaine bonté. Alors je vais maintenant regarder le point de vue de la bonté de Dieu. Dieu seul est bon. La bonté de Dieu, c'est dans sa perfection, c'est dans sa simplicité. Et Dieu, dans sa bonté, a un sommet. Et la bonté de Dieu implique une communicabilité souveraine. C'est le propre de la bonté, c'est de se communiquer. Oui, c'est la différence avec le parfait. Le parfait peut se communiquer, mais ne se communique pas. On a peur de perdre sa perfection. Tandis que la bonté se communique, mais spontanément. C'est ça un être bon. C'est celui qui donne tout. Il n'a pas du tout l'inquiétude de savoir est-ce qu'il va me rester quelque chose. Non. Ça, c'est une considération d'être parfait. Tandis que le bon communique tout. Alors, la bonté de Dieu, elle est dans la simplicité. Quelle est la bonté de la créature ? Eh bien, la bonté de la créature implique, elle aussi, une certaine multiplicité. C'est vrai. Donc, elle se fonde sur la perfection. On ne peut pas être bon sans être parfait. Ah, ça, c'est très important. Vous voyez, là, je réhabilite la vertu. Je ne peux pas être bon sans être parfait. Vous voulez être bon ? Eh bien, soyez parfait. Il faut passer par l'école de la perfection. Il faut passer par l'école de la vertu pour être bon. Mais je ne m'arrête pas à la perfection. Je ne m'arrête pas à la multiplicité. Être bon, c'est quelque chose de plus. C'est atteindre sa fin. C'est donc l'amour. La bonté dans la créature, c'est sa capacité d'aimer. Un être bon, dans la mesure où il est capable d'aimer. Sa capacité d'aimer, donc, c'est la perfection qui va retrouver une nouvelle unité grâce à l'amour et grâce à la finalité. Cette multiplicité va s'unifier grâce à la fin. Je suis bon dans la mesure même où je suis finalisé. Très très important de comprendre ça dans notre vie concrètement. Si nous ne sommes pas finalisés, nous pouvons être parfaits. Il y a des êtres parfaits qui ne sont pas finalisés. On trouvera tout. Le magasin Mammouth, vous trouvez tout. Vous trouvez absolument tout. Absolument tout. C'est merveilleux. Ce n'est pas finalisé pour un pouce. Ah, c'est organisé. Mais c'est organisé en vue de l'efficacité. Mais pas plus. Ce n'est pas finalisé du tout. Tandis qu'au contraire, quand c'est finalisé, alors il y a l'amour. Et la perfection devient une disposition. On ne s'arrête pas. C'est une disposition en vue de l'amour. C'est pour aimer. Et c'est atteindre sa fin, dans la mesure où on atteint sa fin, qu'il y a une unité qui s'est faite en moi. La fin commande l'intention. C'est le passage de l'amour à l'intention. L'amour est au point de départ. L'amour est au terme en devenant une intention de vie. Et l'intention de vie finalise. Vous redécouvrez là le statut particulier de l'éthique, dans la lumière d'un jugement de sagesse. Dans la lumière d'un jugement de sagesse, je vois que l'être humain, il est fait pour être bon. Et être bon, ça s'acquiert. Vous voyez la différence entre la fêlure métaphysique, entre la distinction qui existe entre essence et existence. Ça ne s'acquiert pas. C'est un fait. Et je suis bien obligé de le reconnaître. C'est un fait. Tandis que la perfection s'acquiert et la bonté s'acquiert. La perfection s'acquiert, je ne suis pas encore au niveau moral pour la perfection. Alors, à quel niveau suis-je ? La perfection s'acquiert. Alors, est-ce que je suis au niveau de l'efficacité ? Au niveau du travail. Oui, je crois qu'on pourrait dire ça. Au niveau du travail. Le travail permet l'accumulation des qualités, des formes, puisque le travail est ordonné à une œuvre. Et l'œuvre, c'est l'accumulation des formes. Avec une harmonie. Tandis qu'au contraire, la bonté exige plus. Si Dieu n'était pas bon, il n'y aurait pas de morale. Ah, voilà le fondement ultime de la morale, hein, c'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Et le fondement ultime du travail, c'est que Dieu est parfait. Si je travaille, c'est pour être parfait. Et c'est vrai, il n'y a pas de perfection sans travail. Ça, je crois. Parce que le travail implique cette volonté d'acquisition d'une œuvre. Et cette volonté d'acquisition d'une œuvre me permet d'être parfait. Il y a la perfection de l'œuvre et il y a la perfection du travailleur qui travaille à l'œuvre. Et il acquiert une perfection en travaillant. Celui qui ne travaille pas n'est jamais parfait. Celui qui ne fait que travailler peut être parfait, mais peut être très ennuyeux, vous voyez. C'est les gens qui travaillent tout le temps. Ils n'ont pas perdu 5 minutes dans leur vie. C'est pour ça qu'ils sont si ennuyeux. Parce qu'ils n'ont pas perdu 5 minutes dans leur vie. Ils ont mis le travail comme valeur suprême. Alors quand on met le travail comme valeur suprême, on ne perd pas 5 minutes dans sa vie. On a accumulé. Il fallait prendre un tout petit peu de distance pour dépasser l'accumulation, pour dépasser l'information, et arriver à découvrir autre chose que ça. Alors à ce moment-là, c'est la bonté. Un être qui est bon ne dira jamais « je n'ai jamais perdu 5 minutes dans ma vie ». Jamais. Il dira « j'ai perdu beaucoup de temps à cause de tous ceux que j'ai aimés ». J'ai perdu beaucoup de temps. C'est pas du travail d'aimer. C'est au-dessus. Mais ça m'a permis d'être bon. C'est tout à fait différent. C'est très différent. Il faut sentir ça. Hein. C'est important au point de vue jugement de sagesse, au point de vue existentiel. La différence entre le parfait qui est l'homme travailleur, c'est-à-dire que dans le marxisme, vous pouvez trouver la perfection, vous ne pouvez pas trouver la bonté. Vous pouvez trouver la perfection, parce que ça, il y a le travailleur qui travaille. Vous pouvez trouver des vertus de travailleur. Ça se voit. C'est pour ça que c'est si sérieux. C'est terriblement sérieux. Parce qu'il n'y a que le travail. Et le travail, c'est toujours très sérieux. Tandis que celui qui aime... Je ne dis pas que c'est plus sérieux. Celui qui aime, il est au-delà du sérieux. La catégorie sérieux n'est pas pour lui une catégorie qui est absolue. Le travail étant mesuré par le temps, une qualité du travailleur, c'est de ne pas perdre une minute. Qualité du travailleur. Mais comme l'amour est au-delà du temps, il ne regarde plus le temps. Vous voyez, comme différence entre les deux. Et alors, vous avez là la naissance de l'éthique. Alors, on va bien regarder. Donc, le fondement dernier de l'éthique, c'est la bonté. Le fondement premier et immanent de l'éthique, c'est lorsque je suis bon. Et je suis bon par mon intention qui rejoint ma fin. Vous voyez, le reflet de la bonté de Dieu, c'est mon intention qui atteint la fin et qui est pour moi mon bien. Je rejoins le bien par mon intention. Et c'est pour ça que je peux dire que le fondement propre de l'éthique, c'est l'intention. L'intention volontaire. Parce que c'est cela qui rejoint directement la bonté. La bonté divine, qui est le fondement dernier, le fondement transcendant, le fondement au-delà duquel je ne peux pas aller, c'est la bonté divine. Et je vois que cette intention qui rejoint la fin implique la perfection, implique les qualités innées et les qualités acquises, c'est-à-dire les habitus. Et je vois que ces qualités et ces habitus s'enracinent nécessairement dans l'homme, dans ce qu'il a de substantiel. Je vois donc que la bonté de l'homme implique nécessairement trois niveaux organisés. Ma substance qui existe. La bonté n'existe qu'au niveau existentiel ou existentiel. Au niveau existentiel. Je suis bon parce que j'existe. Je suis bon substantiellement par mon être, par ma personne. La bonté exige des qualités et des vertus acquises, donc des habitus acquis. Et ma bonté rejoint la bonté de Dieu par mon intention. J'ai donc trois niveaux de la bonté. C'est les trois aspects que saint Thomas dit, parce que j'essaie de comprendre. Hein. J'ai toujours un œil sur saint Thomas, n'oubliez pas. C'est ce que saint Thomas nous dit quand il dit que toute bonté au niveau de la créature implique trois dimensions. La substance, les vertus, les qualités. Je vous renvoie toujours à ce fameux article qu'il faut lire de la Somme prima pars question 5, le bien in communi. C'est une question capitale. Quand on voit l'être, il faut voir le bien. Toujours. Il ne faut pas seulement voir l'être, il faut voir le bien. C'est pour ça que je vous ai dit, toute métaphysique implique un effort d'éthique. Et l'éthique est commandée par le bien. Et comme c'est l'éthique, c'est l'homme bon, ou l'homme qui essaie d'acquérir le bon, il faut comprendre que l'éthique a donc trois fondements. D'une certaine manière, elle a trois fondements. La grande question aujourd'hui qui se pose, vous savez bien, quel est le fondement de l'éthique? Ça a encore été posé au niveau du gouvernement récemment. On est revenu en disant qu'il n'y a qu'une seule éthique, c'est l'éthique de Kant. Extraordinaire. Il n'y a qu'une seule éthique, ce serait bien de venir au cours ici, n'est-ce pas? Parce qu'alors on y verrait qu'il n'y a pas que l'éthique, l'éthique de Kant, qu'il y a une autre éthique. Mais ils ont dit, la seule éthique, c'est l'éthique de Kant. L'éthique de Kant, elle se situe à quel niveau? Jugement de sagesse. Au niveau du travail. Au niveau de l'exécution. Il faut faire cela. L'éthique du devoir. L'éthique du devoir, c'est une éthique d'efficacité. Ce n'est pas une éthique de finalité. Et donc, elle se situe au niveau de la perfection. On veut faire des petits citoyens parfaits. Donc, ce sera ennuyeux possible. Parce que si le citoyen est parfait, il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un citoyen parfait. On ne veut pas faire des citoyens bons. Trop grave la bonté, ça conduit trop vite à Dieu. Dès que la perfection, non, il n'y a pas de danger, ça conduit à la loi, ça conduit pas à Dieu, ça conduit à la loi. C'est très curieux ça, la morale de Kant, hein. C'est une morale de perfection, c'est une morale du devoir, c'est une morale ennuyeuse, par le fait même. Parce que c'est une morale qui ne peut pas satisfaire pleinement l'homme. Elle ne donne pas le bonheur. Tandis que la morale de la bonté, c'est une morale du bonheur. C'est une morale de l'intention. L'intention qui nous conduit à la fin. Et puis vous avez donc, dernier moment, la morale de la substance. C'est la morale spinoziste, la substance. Substance, qualité, perfection et puis bonté. Vous avez les trois niveaux de perfection. Trois niveaux de fondement de la morale. Tous les trois impliquent l'essai. Il y en a le bien et le mal. Alors, une grave question qui se pose, hein, et qui se pose justement dans cette perspective du jugement de sagesse. Le bien qui est la personne humaine. Le bien qui est la personne humaine. Nous sommes des êtres bons. Du moins, nous tendons à l'être. Nous tendons à être des êtres bons. Nous tendons à être des êtres qui acquièrent suffisamment de perfection pour être bons. Et nous dépassons la perfection pour ne pas être ennuyeux. Parce que c'est ennuyeux, c'est très gênant d'être cause d'ennui. Il y en a cause d'ennui quand on est uniquement parfait, sans être bon. Alors nous devons tendre à être des êtres bons pour ne pas être des causes d'ennui. C'est très vrai ça. Dans tous les domaines, hein, vous n'avez qu'à rechercher la perfection. Quand on cherche la perfection pour la perfection, c'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux. On doit le faire, oui, alors s'il y a suffisamment de devoirs, on le fait, mais c'est très ennuyeux. Tandis qu'au contraire, la bonté n'est jamais ennuyeuse. Parce qu'elle me met en contact avec le bien. L'intention n'est jamais ennuyeuse, elle me fait en contact avec le bien. Et le bien, c'est ce qui est capable de m'achever. Le bien, c'est ce qui est capable de me donner le repos. L'au-delà du travail. Je me repose. C'est parce qu'une morale est une morale d'intention qu'elle peut être contemplative. Tandis que la morale kantienne ne sera jamais contemplative. Jamais, c'est impossible. Tandis qu'une morale d'intention peut être contemplative parce qu'elle recherche l'au-delà par l'intention. Elle recherche quelque chose qui me dépasse. Tandis que dans la morale kantienne, je demeure dans l'immanence du devoir, dans l'immanence de la perfection. Et donc elle ne sera jamais contemplative. Elle fera en moi des hommes parfaits, des hommes de devoir, mais pas des hommes qui sont capables de se dépasser. Alors, voyez la question qui se pose. C'est de savoir si la bonté de l'homme est-elle quelque chose d'accidentel ou quelque chose de substantiel? Et c'est très important pour l'amitié. Quand j'aime l'ami comme mon bien, est-ce que j'aime l'ami d'un amour substantiel ou d'un amour accidentel? Et la question se pose. Hein? La question peut se poser. Est-ce que l'ami est un bien accidentel ou un bien substantiel? Si c'est un bien accidentel, il n'y a pas de fidélité dans l'amour. Si c'est un bien substantiel, il y a fidélité dans l'amour. Oui, donc c'est important. Puisque la fidélité dans l'amour se fonde sur l'aspect d'un bien substantiel. Un bien accidentel, il n'y a pas de fidélité. Pas de pareil. Ça coule tout le temps. Ça change tout le temps. Tandis qu'un bien substantiel, c'est dit autre chose, il implique une fidélité. Il fonde une fidélité. Fonder la fidélité, c'est de chercher un bien substantiel. Alors la question est très très grave. Alors vous voyez, première chose qu'il faut tout de suite voir, c'est quand je prends distinction de substance et d'accident, je suis au niveau de l'être et pas au niveau du bien. Et donc je transpose une distinction qui est vraie au niveau de l'être, mais qui n'est plus vraie au niveau du bien. Il faut être toujours très attentif à ça. Il y a certaines distinctions qui sont vraies au niveau de l'être et qui ne sont pas vraies au niveau du bien. Pourquoi ? Parce que le bien, pour l'homme, pour la créature, le bien, c'est pas seulement la substance. Je suis bon par ma substance fondamentalement, mais pas d'une manière ultime. Or, la bonté, c'est quelque chose d'ultime, puisque ça touche au point de vue de la fin. Donc, c'est quelque chose d'ultime. Or, par ma substance, je ne suis pas bon d'une façon absolue. Je ne suis bon que matériellement, fondamentalement. Et quand vous dites à quelqu'un, que voulez-vous ? Moi, je suis limité. Vous m'aimez, mais je suis limité. Acceptez que je suis une créature. Je suis une substance limitée. Alors, ne me demandez pas plus. Hein. Je ne peux pas plus. Je suis limité. Alors, en vous appuyant sur moi, vous vous appuyez sur une fêlure métaphysique. Ça va crever. Je suis limité. Très bonne excuse. Mais ça se fait automatiquement, ça. Parce que nous ne sommes pas bons par notre substance. Nous sommes fêlés par notre substance. Nous sommes limités par notre substance. Nous sommes limités dans l'être. Donc, il y a la substance. Il y a les accidents. Les choses acquises. C'est très vrai. Mais ce n'est pas accidentel à ma bonté. C'est essentiel à ma bonté d'impliquer les qualités, les habitus, les vertus. L'homme ne peut pas être bon sans vertu. Il ne peut pas être bon sans vertu. L'homme ne peut pas être bon sans qualité. Et troisièmement, l'homme ne peut pas être bon sans atteindre sa fin, sans être finalisé. Un être qui n'est pas finalisé ne peut pas être parfaitement bon. Peut-être parfait, mais pas être bon. Et donc, les limites de la substance ne sont parfaitement dépassées que grâce à l'intention de vie qui me fait atteindre ma fin. Et ce n'est pas parfaitement dépassé par mes qualités et les vertus. Un être qui est uniquement vertueux, eh bien vous découvrirez très vite ses limites et sa fêlure métaphysique. Tandis qu'au contraire, si vous comprenez que cet être, il est vertueux, mais il a dépassé le point de vue de la vertu par l'intention de vie qui atteint le point de vue de sa fin et de son bien, à ce moment-là, de nouveau, nous retrouvons l'unité, au-delà de la multiplicité. Et nous pouvons dire qu'il est bon d'une manière absolue. Qu'il est bon d'une manière absolue. Et donc, il peut être la fin d'un autre être. Alors, quand je dis qu'il est bon substantiellement, c'est un peu équivoque. Le substantiel n'est pas du côté de l'être, le substantiel est du côté de la bonté. Le mot substantiel peut s'entendre de diverses manières, exactement comme le mot naturel. Substantiel peut s'entendre à des niveaux différents. Eh bien, au niveau de la bonté, la personne humaine est une bonté substantielle. Mais ce n'est pas la bonté, ce n'est pas la substance bonne. Mais il est bon substantiellement, c'est-à-dire qu'il est bon d'une manière absolue, grâce à l'intention de vie. Réfléchissez bien à ça. Et s'il y a des difficultés, posez-les pour qu'on puisse vraiment, la fois prochaine, répondre pleinement à des tas de questions sous-jacentes qui sont très importantes là-dessus.